France Inter, le 18-20.
La voix de cette jeune femme en disant qu'elle a mal partout, qu'elle va mourir, le filet de voix, nous l'avons tous en tête. Cette voix nous a tous glacé le sang. La voix de Naomi Moussanga, 22 ans, qui mourra quelques heures plus tard, quelques heures après ce coup de fil au SAMU. Faute personnelle, semble dire le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg ce soir. Ça veut dire que tous les dispatchers, évidemment ceux que vous avez au téléphone quand vous appelez le SAMU, ne sont pas incriminés. Ça veut dire que tout le système de la médecine d'urgence n'est pas à jeter, mais rien n'empêche d'y réfléchir, réfléchir à l'organisation de nos urgences, au personnel, à ses moyens, aux transmissions, aux appels, à qui nous parle, à ce que vous dites, à qui on vous passe. Rien n'empêche de parler du stress aussi. Agnès Buzyn recevra les médecins urgentistes, ce sera la semaine prochaine, lundi prochain, le 14. Ce sera l'occasion de mettre tout ça sur la table. Nous, on le fait dès ce soir. Soyez les bienvenus dans le Téléphone Sonne.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
C'est par vous qu'on commence, Étienne. Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Eh bien, écoutez, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, hein, mais j'étais pendant une soirée extrêmement douloureux. J'avais mal au ventre, j'avais mal partout, je vomissais, je partais par le bas aussi, et j'étais épuisé à tel point que ça m'a semblé extraordinairement bizarre, et j'ai appelé le SAMU. Et là j'ai eu un interlocuteur qui n'était pas du tout convaincu de ce que j'avais. Et il faut dire que l'après-midi j'avais acheté du jambon en réduction à 50% dans un hypermarché. Et la suite prouvera que effectivement c'était en liaison, quoi. Mais en attendant, l'interlocuteur au téléphone ne voulait pas considérer mon état comme étant justifiant de l'intervention du SAMU. Et j'ai fini par... Alors, bon, il m'est rien arrivé, mais j'ai fini par obtenir qu'il m'envoie un vague ambulancier et qui m'a emmené aux urgences. Et aux urgences, on m'a appris rapidement que j'étais à deux doigts de perdre mes reins, tout simplement. J'ai été déshydraté complètement et j'étais en triste état. J'ai récupéré assez vite. Bon, on m'a expédié sur un autre hôpital. J'ai fait une semaine d'hospitalisation, mais en attendant, j'étais à deux doigts d'avoir de grosses difficultés. Donc je trouve, je le répète, j'ai pas de leçon à donner à personne, mais néanmoins, je me pose des questions sur la validité des personnes qu'on a. Il faut qu'ils nous croient, quoi. Il faut qu'ils croient les malades qui se plaignent et qui disent qu'ils sont à un certain niveau d'impossibilité de prendre le dessus, quoi.
Merci beaucoup, Étienne. On va tâcher de répondre à ces questions, effectivement, grâce à vous qui entamez le téléphone sonne, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Patrick Pelot est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin urgentiste, évidemment, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonsoir, Thomas Meynier.
Bonsoir.
En duplex depuis le bureau de Radio France à Angoulême. Merci au passage à Pierre Marsa qui a prêté son bureau. Vous êtes député La République En Marche. Vous étiez urgentiste jusqu'à l'année dernière et vous êtes chargé en ce moment par la ministre de la Santé d'une mission sur les urgences que vous rendrez dans une quinzaine de jours. Véronique Julia est là également. Bonsoir, Véronique.
Bonsoir.
Spécialiste santé à France Inter. Patrick Pelot, ce que nous raconte Étienne, des témoignages de ce genre, depuis que le standard est ouvert, il y en a plein. Ça tombe comme un gravelotte. Ça veut dire que tout le monde a une envie de raconter une histoire comme ça. Ça veut dire que l'histoire tragique de la jeune Naomi a réveillé plein de choses, en fait.
Oui, et c'est difficile à entendre pour le professionnel que je suis, pour la profession que nous sommes, parce qu'on a comme souci de bien faire notre travail. Et depuis le drame de Naomi, on ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à ça, et nous avons reçu à l'Association des médecins urgentistes de France énormément de témoignages et de gens qui ne sont pas contents, et c'est souvent justifié. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de ces remarques de nos concitoyens, de cette exigence de qualité du service public. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas su moderniser dans notre système? Le SAMU est une grande chose. C'est une grande chose qui marque l'histoire du système de santé en France. Il ne faut pas le jeter comme ça. Il faut le perfectionner. Il faut mieux le faire fonctionner et en lien étroit avec ce qui concerne les urgences. C'est-à-dire qu'il ne faut pas noyer les urgences dans ce qui n'est pas de l'urgence. Ça veut dire qu'il faut travailler pour rassembler tout ce qui ça rapporte aux urgences, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers et le SAMU. Il faut les faire travailler et avec une plus grande coopération.
Ça veut dire qu'il faudrait un numéro commun, par exemple, ou pas ? Est-ce qu'il y a un 911 à l'américaine, en gros ?
Est-ce que ça a une solution ? Il y a une mission, donc moi je fais entièrement confiance à une mission de l'inspection générale de l'administration dirigée par Daniel Lenoir, qui va rendre, la semaine prochaine, les hasards sont parfois cruels, va rendre son rapport. C'était une des propositions du président Macron lorsqu'il était candidat, pour simplifier. Je crois qu'il faut moderniser notre c'est ce que demandent nos concitoyens quand ils appellent, qu'ils aient une réponse par rapport à leurs demandes. Alors on a des professionnels, on a des urgentistes, il y a des permanenciers du SAMU qui font dans la quasi-totalité ils sont de grands professionnels. C'est un travail très difficile, mais ça n'excuse pas tout, ça n'excuse pas la faute qu'il y a eu à Strasbourg. C'est un métier pesant, c'est un métier stressant, mais ça n'excuse pas ce qui s'est passé et il faut qu'on en tire les conséquences.
Véronique Julien.
Là, Naomi disait « je vais mourir », alors c'était très explicite, mais c'est quand même hyper difficile de mesurer la dangerosité de la situation au téléphone. Est-ce que parfois, c'est aussi quand même pour un médecin, puisque l'opérateur est censé donner le coup de fil au médecin régulateur, donc on doit toujours systématiquement passer par un médecin, c'est la règle. Oui. Est-ce que parfois, un médecin peut passer aussi à côté d'une situation dramatique parce qu'un mal de ventre
je ne suis pas parfait, et la médecine d'urgence est l'une des médecines les plus compliquées qui soit.
Et on ne peut pas envoyer une ambulance à chaque fois.
Et puis parce qu'on arrive au début des symptômes, et c'est très difficile. En plus de ça, quand vous êtes médecin... Et bien sûr.
Alors on fait quoi quand on ne sait pas ?
Mais c'est pas ça. C'est que justement, c'est devenu une profession. Avant la sémiologie clinique, vous étiez au chevet du patient et vous l'examiniez. La modernité de notre époque, et on reviendra jamais en arrière, fait que nous avons le téléphone. Et donc la sémiologie téléphonique est apparue.
Thomas Meynier, vous qui êtes en train de rendre votre rapport au ministère de la Santé, là-dessus, par exemple, sur améliorer, comme disait Patrick Peloux, rendre plus efficaces ces téléphones-là, ces moments-là, est-ce qu'il y a des choses que vous préconisez ? Est-ce que vous avez entrevu comment on peut améliorer ça ?
Alors, il y a effectivement des choses à améliorer. Pour autant, j'aimerais d'abord rappeler que le SAMU, c'est 25 millions d'appels gérés chaque année. C'est finalement un appel presque chaque seconde en France en ce moment auquel le SAMU répond. Et tout se passe pour le mieux l'immense majorité du temps. On a un cas ici exceptionnel dans son drame, mais tout n'est pas à jeter. Alors effectivement, après, la régulation médicale, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile en médecine, et en particulier en médecine d'urgence. On peut toujours s'améliorer. Je pense qu'il y a des leviers sur l'organisation du SAMU, sur l'amener à une certaine modernisation avec les moyens qui sont les nôtres en 2018, et puis encore à travailler sur la formation des professionnels de santé.
Mais attendez, pardon, monsieur Meynier, modernisation, ça veut dire quoi ? Très concrètement, est-ce qu'il y a une proposition qui dit voilà comment on pourrait faire, voilà comment ça se passerait mieux, voilà comment ça marche mieux peut-être avec le médecin régulateur ? Pour améliorer, on fait quoi ?
Typiquement, la régulation et le SAMU, c'est l'acteur historique de la télémédecine en France. Télémédecine dont on parle très souvent depuis quelques mois. Aujourd'hui, avec les moyens qui sont les nôtres, notamment numériques, on pourrait très bien imaginer, par exemple, de rajouter de la vidéo dans les appels pour avoir un lien, l'image, et pouvoir mieux converser avec les patients.
Avant qu'on retourne au standard, Patrick Peloux, moi, en écoutant cet enregistrement, il y a aussi quelque chose qui m'est venu à l'esprit. C'est l'idée que, est-ce que à un moment, le standardiste ne se dit pas, je vais pas passer encore un xième appel au médecin régulateur, donc je prends la décision moi-même de ne pas aller jusqu'à ce médecin régulateur. Est-ce que, de fait, dans le quotidien, c'est comme ça que ça fonctionne, même si on sait que normalement, il faut passer par le médecin, mais bon, voilà, dans la vie de tous les jours, ça se passe différemment.
Elles sont deux à répondre. Il y a la stationnaire des sapeurs-pompiers et la permanentiaire du SAMU. Elles sont deux, en fait, à banaliser le coup de téléphone. Alors, c'est ça la grande difficulté de ce métier de régulation. C'est-à-dire, quand vous arrivez et que vous commencez à votre poste de travail, vous êtes relativement scrupuleux. Mais quand vous arrivez à la sixième, septième heure, où vous avez pris, en effet, comme vient de dire Thomas Meynier, un à deux appels toutes les deux à trois minutes, d'accord ? Vous commencez à banaliser. Donc, ça veut dire, puisque vous parliez, vous disiez modernisation. Mmh. Eh bien, je pense qu'en effet, il faut se poser des questions sur la pénibilité du travail et se dire, au bout de combien de temps, au bout de combien d'appels, il faut faire une pause, il faut débriefer ce qu'on fait, se repositionner de manière à répondre. Mmh. Mais, là encore, et toujours en pensant à Naomi, ça n'excuse pas ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des professionnels qui savent très bien que quand ils vont commencer à banaliser l'appel qu'ils ont, eh bien, il faut qu'ils lèvent le pied ou qu'ils passent l'appel, parce que vous n'êtes jamais seul en régulation, vous passez l'appel à un collègue.
Véronique, très vite, parce que je voudrais qu'on retourne au standard.
On passe combien de temps sur un appel, sachant qu'il y a 25 millions d'appels aujourd'hui, et il y a 30 ans, il y en avait 8 à 10 millions. Donc, voilà. Est-ce que les effectifs ont augmenté? Est-ce que le temps d'appel s'est réduit au cours des 30 ans? Ça pose la question des effectifs.
Les effectifs n'ont pas augmenté de manière considérable, la charge de travail a augmenté de manière considérable. Mais là encore...
Donc, ça veut dire moins de temps pour traiter chaque appel?
Bien, c'est pas moins de temps, c'est une pénibilité particulière parce qu'ils ont des compteurs maintenant et des systèmes informatiques qui leur signalent le nombre d'appels en attente.
Bonsoir Jean-Marc Castader.
Bonsoir.
Vous êtes médecin généraliste et vous êtes régulateur libéral, donc c'est intéressant de vous avoir dans le téléphone sonne. Ça veut dire que le médecin derrière, c'est vous, en fait, monsieur Castader. Moi, je voudrais savoir, justement, quand vous entendez ça et avec l'expérience qui est la vôtre, à quel moment vous avez le sentiment, vous le médecin, à un morceau de la chaîne, ça dysfonctionne parfois?
Eh bien, de mon point de vue, l'important, c'est qu'il y ait toujours une régulation médicale. Chaque appel, régulation médicale pour que le médecin qui a son expérience, sa formation de médecin, il puisse prendre en compte tous les éléments de l'interrogatoire, de l'histoire du patient, qui puisse expliquer pourquoi ce patient appelle ce jour-là. Et on doit toujours se poser la question, pourquoi il appelle? Pourquoi je l'ai en ligne? Et ce médecin, il doit se poser la question de savoir... Et dire, le patient, il sait ce qu'il a, il est compétent, il a utilisé un numéro d'urgence. Quand il utilise un numéro d'urgence, que ce soit le 15, le 18, voire le 17, c'est qu'il a une conscience d'une urgence, de quelque chose qui est vraiment important.
Ça, ce que vous dites, c'est qu'il se trompe rarement, en fait, et je trouve ça très intéressant, parce qu'on parlera probablement des gens qui font des canulars, etc., ça c'est une chose. Mais sinon, le plus souvent, les gens ne se trompent pas quand ils appellent le SAMU ou SOS médecin, ils savent choisir surtout qui est censé être l'interlocuteur, monsieur Castader.
Absolument, nous qui régulons la permanence des soins, c'est-à-dire les appels, comme on appellerait son médecin généraliste en journée, on les appelle la nuit et le week-end quand on a un besoin de soins, eh bien, on se rend compte que moins de 4% des appels qui arrivent sur notre numéro de permanence de soins, qui est le 3966, qui sera prochainement le 1717, dans moins de 4% des cas, on a besoin de retransférer au médecin urgentiste pour vérifier s'il y a une urgence cachée ou pas derrière cet appel.
Ça veut dire qu'il y a une vraie connaissance des gens. On parlait tout à l'heure de rendre le système plus performant. Là aussi, j'aimerais bien avoir votre avis, de votre point de vue à vous, le médecin, celui qui est, encore une fois, le régulateur sur la ligne, pour que ça marche mieux, qu'est-ce qu'on change là demain?
Alors, il faut mieux les former à la communication, il faut mieux les former aux techniques d'écoute, et aussi se poser la question du bon médecin au bon endroit. Il y a la grande majorité des appels qui arrivent la nuit et le week-end sont des appels de permanence des soins. Les gens appellent parce qu'ils ont, il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais c'est parfois quelque chose qui n'est pas véritablement urgent. Quand ils ont affaire à un professionnel de santé, à un médecin généraliste compétent dans la permanence de soins, celui-là va être capable d'aller voir tous les signes qui permettent d'enlever la gravité et d'éviter de passer à côté de quelque chose d'urgent. Et ça, c'est véritablement important. Et c'est important que nos auxiliaires de régulation médicale aussi soient bien formés et aient du temps pour répondre à chaque appel.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Jean-Marc Castader, qui est important. Thomas Meynier, sur la meilleure formation des gens qui répondent, est-ce que le chargé par la ministre de la Santé d'une mission sur les urgences a quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que oui, c'est dans les tuyaux, en effet?
Alors, ma mission ne portait pas strictement sur les urgences, mais plus sur les soins non programmés et sur ce qui se passe avant l'arrivée aux urgences, notamment dans le secteur de la médecine générale.
Précisément.
Pour autant, il y a une intersection claire, évidente et une nécessité de s'adapter sur la régulation. Et je ferai des propositions en ce sens. Clairement, sur la formation des permanenciers, on s'aperçoit, et c'est mis en lumière par ce drame, qu'il y a de grandes disparités de formation et qu'il serait très intéressant, effectivement, de se pencher sur la question pour avoir véritablement une formation qui soit la même sur le territoire, qui soit un apport certain des compétences nécessaires pour répondre à ce coup de fil, parce que tout se fait dans les premières secondes. Et là, malheureusement, on voit dès les premières secondes de la bande sonore, qui est, comme vous l'avez dit, glaçante, que ça ne va pas, que cette femme est dans une situation de détresse et qu'il faut lui envoyer des secours.
Bonsoir André.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue au téléphone, sonne André, on vous écoute.
Merci. Je voulais dire, moi j'ai eu un problème il y a 2 ans, une urgence effectivement cardiaque, et j'ai appelé les pompiers, parce que les pompiers viennent très vite chez nous, ils sont volontaires, je suis dans l'arrière-pays varois, ils viennent très vite et ils sont très capables d'évaluer la situation et la gravité de la situation. Et eux m'ont mis d'abord en sécurité et ont attendu le médecin du SAMU. J'ai été hospitalisée et tout s'est très très bien passé aussi aux urgences. Alors je veux dire que s'il y a effectivement surcharge, je comprends qu'il puisse y avoir des ratés, comme on dit malheureusement. Mais dans l'ensemble, je veux dire, les pompiers sont vraiment les personnes les plus aptes à évaluer vraiment la gravité d'une situation.
Merci beaucoup pour ce témoignage, André. Patrick Pelou, c'est intéressant ce qu'elle dit, André. D'abord, ce qu'elle dit, c'est « moi, je vais là où j'ai confiance. Et les pompiers, j'ai confiance. » Est-ce que c'est le bon réflexe? Est-ce qu'on peut redire qui il faut appeler, sur quelle sorte de choses, en fait?
Oui, parce qu'il n'y a pas toujours un médecin dans l'équipe des pompiers.
Ah non, non, non,
faut, c'est ça qu'il faut savoir.
Il ne faut pas tout confondre. Ouais. Et c'est là où c'est la difficulté, parce que nous sommes dans une société où il faut des choses simples. Et au fur et à mesure de la construction du système de santé des urgences, en fait, on a rajouté des strates. C'est ce que disait Jean-Marc, le médecin libéral, qui disait ben, « nous, on a un numéro d'appel pour les libéraux. Et puis, vous avez les pompiers. Et puis, vous avez le numéro unique d'appel, le 112 européen, que la communauté européenne a fait pour que tout concitoyen européen puisse savoir qui appeler s'il se promène dans tel et tel pays européen. Et vous avez le SAMU, le 15. Donc, c'est vrai que là, la modernisation dont Thomas Meynier parlait tout à l'heure, c'est probablement simplifier ce nombre de numéros d'appel. Mais ça veut dire revoir complètement, mais dont acte, chiche, allons-y, le mode de fonctionnement des permanenciers, le mode de formation, bien entendu, de manière à répondre à la demande du public.
Parce que là, très concrètement, par exemple, j'ai une douleur dans le bras gauche, je sens qu'il y a un problème, mon réflexe, c'est d'appeler le 18. J'appelle les pompiers, je dis j'ai une douleur dans le bras gauche. Le réflexe du pompier, c'est de faire quoi? C'est de m'envoyer tout de suite au SAMU?
Alors, le pompier...
C'est de faire quoi?
Les sapeurs-pompiers ont des protocoles, c'est-à-dire qu'il va vous interroger sur savoir si vous avez la douleur dans le bras gauche, si elle vient du thorax, si c'est sur l'hémithorax gauche, si ça va dans le dos, si vous avez mal à la tête, si vous avez mal dans le ventre, si vous avez fait un malaise, si vous êtes en sueur. En fonction de tout cet algorithme-là, il va déclencher un véhicule de premier secours pour aller voir ce qui se passe, bien entendu.
Il y a toujours un médecin dedans ou pas toujours?
Ah non, 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 les véhicules de premier secours, ce sont des secouristes. Comme vient de dire André...
Il y a parfois un médecin dans l'équipe des pompiers quand même.
Alors bien sûr, ils ont des médecins, mais pas toujours. Voilà. Et il va en référer au SAMU, qui là, il y aura un médecin et qui enverra ce qu'on appelle une unité mobile hospitalière et de réanimation qui va arriver et qui va prodiguer, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit par exemple un infarctus du myocarde.
Mais c'est du temps perdu, s'il n'y a pas de médecin dans l'équipe éventuellement, ça peut retarder quand même la prise en charge.
Alors tout est là en fait. La modernité qu'il y a, c'est pour ça qu'il y a par exemple des expérimentations qui sont faites pour que les sapeurs-pompiers volontaires fassent tout de suite un électrocardiogramme et qu'ils soient télétransmis, ce qu'évoquait Thomas Meynier, directement à la régulation du SAMU, etc. Nous sommes très en retard parce que, par exemple, il faut savoir que le système informatique des sapeurs-pompiers est incompatible avec le système informatique du SAMU, par exemple.
Ce qui est quand même incomble.
Et ce n'est qu'un exemple, parce que quand après vous apercevez ce qu'on entend sur l'appel qui touche ce drame de Naomi, vous avez la stationnaire des pompiers qui téléphone au SAMU pour passer l'appel.
Et le dysfonctionnement commence à ce moment-là, d'ailleurs.
Et ça commence là, parce que déjà, les deux, elles banalisent totalement ce qu'elles font.
Mais en gros, vous dites, si j'ai un feu de cheminée, j'appelle les pompiers, et puis si j'ai mal au cœur, j'appelle le 15. C'est ça qu'il faut, c'est le réflexe qu'il faut avoir.
Alors,
on fait comme on peut, mais on ne sait pas.
Mais on fait comme on peut, les deux sont interconnectés, ce qui me semble d'ailleurs insuffisant maintenant.
Pour optimiser ces chances d'être pris en charge vite.
C'est pour ça qu'il y a cette mission, et moi je suis arc-bouté sur la réponse de cette mission qui est diligentée par l'inspection générale de l'administration et Daniel Lenoir, qui va répondre à la question de savoir comment moderniser. Nous devons répondre aux besoins du public et pas des querelles de chapelle des uns et des autres.
Thomas Meynier, je sais que vous voulez intervenir, mais je voudrais qu'on écoute Sandrick avant, parce que son témoignage est important par rapport à ce que vient de dire Patrick Pelou. Bonsoir Sandrick.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Oui, merci. Ben, on est tout à fait dans ce que vous venez d'évoquer. Donc moi, pour vous situer, j'ai 42 ans. Il y a 4 ans, j'ai eu des douleurs le soir à 23h, donc dans la poitrine et puis dans le bras droit. Je dis bien le bras droit. Et donc, ma femme a appelé le SAMU au bout d'un moment, donc il était aux alentours de 23h, 23h30. Mmh. Et donc à ce moment-là, le SAMU m'a dit que, lui a dit que ça devait certainement être une crise d'angoisse ou une crise de panique. Donc on a un peu attendu, rien n'est passé avec une médication, j'ai pris un Doliprane. Moi j'avais beaucoup de difficultés à parler. Bref, elle a dû rappeler, et vers minuit et demi, 1h du matin, elle l'a renvoyée vers SOS Médecin. SOS Médecin est arrivé à 2h, 2h30 du matin, et lui pensait aussi très certainement une crise d'angoisse. Et au moment où il a fait l'électrocardiogramme, il m'a dit clairement, bon maintenant là effectivement, c'est un infarctus du myocarde. Donc moi voilà, j'en voulais absolument pas à l'opératrice, j'ai perdu 15% de mon cœur, mais c'est la médecine, ce n'est pas binaire. On ne sait pas ce qui serait passé si j'avais été pris en charge plus vite. Toujours est-il que je m'interroge justement sur la partie j'entendais d'algorithme tout à l'heure. Je suis sauveteur secouriste du travail et on nous apprend, attention à ce que vous venez de dire d'ailleurs à l'antenne tout à l'heure, douleur à la poitrine, bras gauche, égale infarctus. Mmh. C'était douleur à la poitrine, bras droit, ça a été un infarctus. Voilà. Je m'interrogeais un peu sur ces algorithmes et sur ces catégories qui a été faite à ce moment-là.
Merci beaucoup pour ce témoignage un peu glaçant, Sandrick. Effectivement, Patrick Peloux et puis Thomas Meunier juste après.
Je répondais à la question que vous m'aviez posée, où vous donniez comme exemple le bras gauche.
Exactement.
Bien entendu, et c'est un piège de la médecine, vous avez des infarctus avec des symptomatologies atypiques.
Cela dit, pardon de vous interrompre, moi la première, si j'ai mal au bras droit, je ne penserais pas que je suis en train de faire un infarctus sérieusement.
C'est ce qui fait que la médecine d'urgence est l'une des médecines les plus difficiles. Mmh. Et nous devons rester avec une grande humilité, parce que c'est extrêmement compliqué. Alors maintenant, par rapport à ce que vient de dire Sandrick, ça veut dire plein de choses en fait, parce que ce témoignage est intéressant. Ça veut dire que l'examen qui va nous déterminer s'il y a une gravité ou pas, c'est l'électrocardiogramme. Donc est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait un accès plus rapide à des électrocardiogrammes, même sur des douleurs qu'on qualifie d'atypiques, mais qui sont des infarctus ?
Thomas Meunier, vous vouliez intervenir, je vous ai laissé seul trop longtemps, je vous écoute.
Oui, merci. Encore une fois, le dernier témoignage montre à quel point, passez-moi l'expression, mais parfois la médecine d'urgence, c'est casse-gueule. Et même avec un examen d'un médecin, il a fallu l'électrocardiogramme pour faire le diagnostic. Là encore, j'en reviens à la nécessité de modernité et de modernisation, parce qu'on a les moyens techniques aujourd'hui pour que les pompiers, par exemple, ou des ambulanciers fassent l'électrocardiogramme et qu'ils soient envoyés à la régulation. Je voulais juste revenir un instant sur les numéros d'appel, parce que finalement, on le voit bien. D'ailleurs, dans le cas de Naomi, je crois qu'elle avait d'abord appelé la police, le 17, et finalement, il y a le 17, le 18... Ouais,
la pauvre,
elle
est passée par le 17, le 18, le 15 et puis plus rien.
Le SOS médecin, le 112, les numéros locaux de permanence des soins et finalement on s'y perd. Et il y a une nécessité, alors je ne sais pas s'il faut un ou deux numéros d'urgence au final, la mission nous éclairera dès la semaine prochaine. Pour quoi qu'il arrive, je crois qu'il faut simplifier et fluidifier les relations entre les différents acteurs. C'est clairement, on a des marges de progression sur le sujet et ça devient une impérieuse nécessité.
Tiens, Thomas Meunier, une question sur franceinter.fr, elle vient de Rémi et c'est pour vous. Votre invité tout à l'heure parle de vidéo pour améliorer le service. Mon PC est à l'étage de ma maison et je n'ai pas de webcam ni de smartphone. Ma mère a 90 ans et ne sait pas se servir d'internet. C'est une vraie question ce qu'il pose Rémi. J'entends ce que vous dites sur le fait qu'effectivement ça peut faciliter un certain nombre de choses, mais dans l'urgence, dans le moment, au moment où on a mal au bras droit ou au bras gauche, est-ce que vraiment c'est viable, c'est possible? Est-ce qu'on aura vraiment ce réflexe?
Je ne dis pas que ça sera dans tous les cas et pour tout le monde. Pour autant, aujourd'hui, ça se démocratise, les smartphones notamment. Et ça peut être une aide intéressante dans bien des domaines. Je ne sais pas si vous vous brûlez avec votre barbecue, vous vous faites une plaie en bricolant, vous avez une douleur, quelle qu'elle soit, et vous voulez en parler. Ça peut être une aide, je ne dis pas que ça doit être systématique.
Ça marche pour la bobologie ou la grosse bobologie, on va dire, même si c'est une brûlure de barbecue, etc. C'est grave, mais ça ne marche pas pour les choses très très graves, en fait.
Ça pourrait probablement aider sur un certain nombre de choses de signes cliniques qu'on voit à ce qu'on appelle l'inspection. On verra le teint, s'il est un peu gris, s'il est pâle, s'il y a des sueurs, la façon dont il s'exprime. Un AVC, par exemple, si quelqu'un appelle avec quelqu'un qui fait un AVC, on pourra voir des signes. C'est pas la solution, mais ça fait partie des nombreuses solutions à explorer.
Patrick Pelou ?
Non, je crois que d'abord tout le monde n'a pas de smartphone, ça coûte une blinde, tout le monde n'a pas accès à ce niveau. Or, nous sommes, les services d'urgence, les SAMU sont un système, un des piliers régaliens de l'État, de la sécurité. C'est ce qui fait que notre société, nous nous sentons tous en sécurité, parce qu'il y a la police, les pompiers, le SAMU, les urgences. Donc ça veut dire que notre système doit répondre, oui, bah c'est ça, c'est l'enjeu, c'est complètement fou, mais on doit répondre aux 65 millions de Français. Voilà. Et ça veut dire que les réponses doivent pas dépendre d'outils technologiques, mais doivent répondre à une demande qui est avant tout une demande humaine. Si on repart sur ce qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est notre seule pensée, c'est-à-dire Naomi, ce qui s'est passé, vous avez des gémissements et quelqu'un qui est en train de dire qu'elle va mourir. Et elle meurt. Ça interpelle tout le monde dans la profession aujourd'hui. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut ? Il faut envoyer très rapidement parce que c'est le collègue des SOS médecins qui va sur place, qui déclenche tout ça. Donc finalement, et pour reprendre un peu ce que dit Thomas Meynier, l'objectif c'est comment et finalement on va mettre le plus rapidement possible un médecin ou des secouristes avec des protocoles de soins qui vont donner de l'information qui sera crédible ou des infirmiers qui vont se déplacer pour donner des renseignements rapides. C'est ça la question, comment mettre un professionnel de santé qui soit contrôlé, si ce n'est pas un médecin, par le régulateur du SAMU, mais au pied du malade.
Véronique,
est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de civilité ? C'est-à-dire qu'on sait qu'on va aux urgences parfois pour des petits bobos dont on pourrait se passer.
Non.
Est-ce que
alors,
certains
écoutez,
abusent
non,
du 15 ?
Mais
non,
écoutez,
mais c'est une question.
Non, mais c'est une question, c'est ma réponse. Il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire que là, on nous fait le coup en disant il y a plein de gens qui font des canulars. Écoutez, ça fait maintenant 10 ans que je travaille au SAMU de Paris. Je crois me souvenir d'un ou deux canulars.
D'accord.
Les gens ne se marrent pas. Et puis on sent très bien que c'est généralement des gamins qui appellent en disant que
en fait, c'est pas les gens qui se marrent, excusez-moi Patrick Pelou, c'est pas tant les gens qui se marrent, c'est les gens qui téléphonent 20 fois, 30
ça,
fois,
c'est autre
aussi
chose.
Parce qu'ils sont pas bien,
mais
et
ça,
pas
c'est...
bien, pas bien
non,
dans leur
ça,
tête non
plus.
Ça
c'est autre chose, pas bien, voilà. Même la souffrance psychologique, elle doit être prise en charge. Je suis désolé, c'est le niveau de curseur de l'humanisation de notre société. D'accord ? C'est compliqué, ça demande des moyens, ça demande des professionnels. Alors c'est vrai, après, on a beau jeu de dire, je déteste ce mot, de la bobologie, etc. Mais vous le savez après. Vous le savez après. Et quand quelqu'un va vous dire, je fais un malaise, je vais pas bien, etc., vous aurez beau jeu après de dire, oui, c'est bien, il a bourré, il est bourré, il a bu toute la soirée, etc., il vomit, etc. Mais ça reste, par exemple, une intoxication alcoolique aiguë. Et ça se trouve, un traumatisme crânien derrière. Alors oui, nous avons un métier qui est très difficile, où il faut décliner systématiquement toutes les urgences que ça peut être. Mais c'est un enjeu parce que c'est un enjeu de santé et d'humanisation de notre société.
Thomas Meynier qui voulait intervenir. On vous écoute, monsieur Meynier.
Oui, merci. Pour rajouter tout simplement que, effectivement, tous les appels ne sont pas des urgences médicales. Mais comme vous l'avez dit, les gens se trompent rarement en appelant le 15. Et tout le temps, c'est une sensation, une situation d'urgence ressentie. Et à ce moment-là, c'est aux professionnels, c'est à l'État. Et Patrick Pelou en parlait de la force régalienne, finalement, du SAMU. C'est aux professionnels de juger et d'envoyer les moyens et de répondre à la situation d'urgence de la personne qui appelle. L'État et le SAMU, en l'occurrence, est là pour protéger, donner un accès aux soins, répondre à la situation d'urgence de la population. Et après, justement, comment ça se passe ? Disons que c'est à l'État et au SAMU de faire son organisation pour répondre au mieux. Mais on ne doit pas se poser la question de « il faut appeler, il ne faut pas appeler ». Si on a un besoin, on appelle.
Patrick Pelou.
Oui, mais je suis bien d'accord avec vous. Mais à partir du moment où les organisations n'arrivent pas à se stabiliser, à répondre à la demande des usagers, c'est aux législateurs et aux députés que vous êtes de prendre la main et de dire ce qu'il faut faire. Notamment sur les querelles entre SAMU et pompiers, il y en a marre de ce truc-là. Il faut qu'ils arrivent à travailler ensemble.
Cyril, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Cyril. Vous êtes médecin, d'ailleurs, donc c'est un peu intéressant.
Oui, je suis médecin dans l'Isère. Et je voudrais modérer un petit peu les propos qui consistent à jeter l'opprobre sur cette permanentiaire du SAMU. Parce qu'il peut arriver d'abord que des appels ne soient pas transmis aux médecins. lorsqu'il s'agit d'habituer du standard ou de demande inadaptée ou de demande de renseignement. Cela représente moins de 5% des appels, mais ça existe. Et dans le cas qui nous émeut, il y avait un premier appel, ça a été beaucoup dit, qui est confusionnant, il y a des facteurs confusionnants. Et par ailleurs, il faut savoir qu'il existe 30% des appels qui relèvent de la psychiatrie, et c'est aussi le reflet de la déliquescence de ce secteur. Et pour les gens du SAMU, c'est un gros facteur de stress. Tu as des patients qui t'appellent et tu n'as pas de solution. Et j'ai un collègue du SAMU 38 là, que j'ai eu au téléphone aujourd'hui qui m'a dit « Je peux te faire écouter 100 bandes d'appels de patients en grande détresse avec une seule au milieu qui relève d'une prise en charge en urgence et tu la détecteras pas forcément. » Donc tout ça juste pour dire que c'est pas aussi simple. On peut se faire piéger, il le dit lui-même. Tu imagines bien qu'on a tous eu ce genre de... Il m'a parlé de casseroles et que ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc certes, ça n'excuse pas... Il n'est pas excusable et que ça n'enlève rien à la détresse de cette famille. Mais en l'occurrence, 22 ans, mal au ventre, dit qu'elle va mourir, on peut se faire piéger. Voilà. Ce n'est pas, c'est une chose que je tenais à souligner. Et je trouve que le ministère, et en particulier Madame la ministre, a été très prompte à monter au créneau et à passer du temps pour dire toute l'indignation qui était la sienne. Mais elle a pris moins de temps pour recevoir les médecins de terrain qui lui ont écrit et les personnels en grève des urgences de Strasbourg. Elle a été moins prompte à les recevoir pour essayer de discuter comment prévenir tout cela, parce que les syndicats de personnel, beaucoup de médecins, et en particulier à Strasbourg, avaient essayé de l'alerter sur les difficultés sources. Difficultés source de risque.
Alors peut-être Cyril, voilà. Moi je vais me faire l'avocat de personne. Je vous en prie, avec plaisir, je vais me faire l'avocat de personne, mais au moment où l'émotion est telle dans l'ordre de la réponse, peut-être que la réponse elle est d'abord effectivement à l'émotion. Je voudrais juste qu'on réécoute Jean-Marc Castaner, juste une seconde, pour pouvoir vous dire au revoir aussi et vous remercier d'être passé dans le téléphone sonne, monsieur Castaner. Là-dessus, sur l'extrême difficulté et aussi d'une certaine façon, encore une fois, on met beaucoup de guillemets, mais ce droit à l'erreur, en fait, dont parlait Cyril, j'y mets des guillemets parce que la jeune femme est morte, enfin évidemment que tout ça est extrêmement compliqué, mais la difficulté de ce travail qui est le vôtre, qui est celui de ceux qui répondent et du médecin qui prend derrière, effectivement il ne faut pas la négliger.
Alors oui, c'est difficile, mais parce qu'on travaille en équipe avec des gens bien formés, avec un auxiliaire de régulation bien formé, avec un médecin bien formé, avec un effecteur bien formé, et pas quand la communication fonctionne bien, quand l'un des trois fait une erreur, parce qu'elle peut arriver, l'autre va la récupérer. Et c'est parce qu'on va utiliser des systèmes d'information de qualité qu'on va pouvoir faire remonter au médecin régulateur, mais tiens, tu m'as envoyé là, mais finalement c'était plus important que ça, qu'on va pouvoir rattraper les difficultés. Et c'est quand on travaillera en équipe, en bonne intelligence, que chacun sera au bon endroit au bon moment, qu'on permettra à chaque patient d'avoir les bons soins. Et c'est ça qui me paraît important, qu'on puisse faire que chaque patient puisse avoir un parcours de soins pour avoir les meilleurs soins au meilleur endroit, au meilleur moment.
Thomas Meynier, je vous ai entendu réagir, et notamment lorsque le premier auditeur, Cyril, parlait de la réaction de la ministre.
Oui, je voudrais quand même insister sur le fait qu'on peut d'ailleurs se poser la question du délai avec lequel on apprend ce drame. Agnès Buzyn a tout de suite réagi en diligeant l'enquête IGAS, dont elle attend les résultats, je crois, fin de semaine prochaine, et je pense qu'on sera nombreux à en attendre les analyses. Après, comme vous le disiez, Monsieur Peloux, l'histoire est cruelle. On a le rapport sur le numéro d'urgence qui arrive très prochainement. Je ferai mes propositions, moi, dans 2 semaines. Agnès Buzyn a lancé la stratégie de transformation du système de santé il y a plusieurs mois à pleine allure. Les travaux sont en train d'aboutir. On sait qu'on a là un défi incroyable de modernisation de notre système de soins, mais le travail est fait, on en verra les conclusions très prochainement. Je crois que le président de la République a prévu des annonces début juin. Donc on a véritablement un gouvernement et le législateur dont vous parliez tout à l'heure au travail et à l'action pour améliorer les choses, parce que on parle souvent du numerus clausus, mais ça c'est une solution pour avoir plus de médecins à 10 ans, et aujourd'hui on a besoin de solutions à court et moyen terme, des choses qui pourraient se mettre en place dans les prochains mois ou dans les toutes prochaines années.
Patrick Peloux.
Je suis bien d'accord avec ce que vient de dire Thomas Meynier, mais par exemple pour parler de ce qui nous préoccupe, la médecine d'urgence, c'est devenu une spécialité, et il faut que vous sachiez qu'on est en train de créer notre propre pénurie, parce que maintenant il y a une sélection pour devenir médecin urgentiste, alors qu'avant c'était la possibilité est ouverte, et je pense que c'était une bonne chose à toutes les disciplines, dont la médecine générale. Donc on est en train à partir de cette année, de créer notre propre pénurie. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? Et c'est là où il y a une interpellation, et par rapport à ce que disait l'auditeur Cyril, c'est un métier très difficile. C'est un métier très difficile, et ça interpelle, parce que beaucoup de collègues, beaucoup de permanenciers d'ailleurs, ne savent pas s'ils peuvent faire ça toute leur vie. Donc, ça veut dire que si on veut garder un niveau, et on voit bien l'importance de la médicalisation, de la régulation, que c'est un métier, à mon sens, comme disait Jean-Marc, l'un des plus difficiles qui soit. Je pense que là, c'est vraiment maintenant qu'il faut réfléchir aux validations des acquis professionnels pour savoir comment les gens viennent, comment ils peuvent repartir de ce métier.
Ça va créer une crainte d'ailleurs, non, cette affaire de Naomi, oui, probablement auprès des gens qui reçoivent les coups de fil, auprès y compris des médecins régulateurs.
Ça a commencé, il faut que vous sachiez, on est là pour se dire les choses, il y a beaucoup de gens qui appellent pour insulter les gens du SAMU, je crois que ce n'est pas du tout la solution et ce n'est pas ça qu'il faut. Je me permets de redire que tout le monde a une très grande compassion à l'égard de la famille de Naomi et tout le monde ne pense qu'à ça et tout le monde réfléchit comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça se reproduise. Bien sûr, nous avons un métier difficile. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui appellent ou c'est des urgences relatives, voire c'est de la consultation simple et ça c'est sûr. À nous de nous adapter au monde moderne. C'est pas au monde moderne de s'adapter à un système qui a été inventé au XXe siècle.
J'ai une question sous les yeux. Il y en a beaucoup des mails dans ce sens. Alors, je vais vous la poser comme elle vient. Suis-je parano, nous demande cet auditeur. Personne ne parle de discrimination, d'un acte de racisme ordinaire. Ça vous a traversé l'esprit ou pas?
Alors, c'est pas que ça m'a traversé l'esprit. Nous avons vu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Je n'y vois aucun acte raciste. Je pense que c'est simplement de l'incompétence professionnelle qui est dramatique parce que ça a entraîné la mort de quelqu'un, mais je ne crois pas un seul instant qu'il s'agit d'un acte raciste.
Voilà, on n'entend que la voix par ailleurs, ce serait peut-être compliqué, j'en sais rien, mais la question elle se pose, visiblement elle est posée par un certain nombre de gens, on l'a posée, vous y avez répondu. Merci beaucoup d'avoir participé à ce téléphone sonne, merci à tous pour vos nombreux appels. Et portez-vous bien, dans un instant, dans 3 minutes, c'est Laure Adler pour L'Heure Bleue, il est 20h sur Inter.